En ce dimanche de rentrée, j'avais envie de vous parler d'argent. Non pas pour vous dire que les finances de la paroisse vont mal, parce qu'elles sont très bien gérées, elles vont. Mais parce que je pense que souvent, après, c'est la période après les vacances où on se remet au travail, on organise sa vie professionnelle, et aussi on fait son budget. Et parfois même, on fait le point sur ses placements, lorsqu'on en a, et on se propose d'en changer. Parfois on se dit, pourquoi est-ce que j'investirais pas en bourse ou dans l'immobilier ? Éventuellement maintenant, on pourrait se dire qu'on va investir dans une start-up ou une plateforme de financement participatif. Bref, autant de sujets qu'on a l'habitude d'aborder plutôt avec son banquier ou avec des amis qui s'y connaissent. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est vraiment inhabituel, c'est Jésus qui nous donne à sa façon une leçon d'entrepreneuriat et de management. Et pas n'importe quelle leçon. Cette parabole a beau être très connue, vous savez, au point que le mot « talent » est directement, dans la langue française, est issu de cette parabole. Elle n'en est pas moins très choquante pour nous, tant on a du mal à imaginer un Jésus qui condamne celui qui épargne et félicite ceux qui spéculent. Car pour quelqu'un qui ne parle d'argent que pour mieux en condamner les méfaits, là, on peut dire qu'on est servi. Cette parabole des talents est une sorte de concentré de capitalisme pur et dur qui ferait passer le libéralisme actuel pour un vrai conte de fées. Un véritable hymne à l'investissement capitaliste et au passage aussi un exemple de cruauté et de brutalité comme on en voit tout de même rarement dans la Bible. Alors ce matin, je voudrais essayer de vous proposer deux interprétations de ce texte. L'une plus prosaïque, collant au texte tel qu'il est, sur l'encouragement à la rentabilité de l'investissement. Et vous verrez à quel point ce texte a, à sa façon, induit une conception radicalement différente de l'activité économique qui s'est traduite au fil des siècles parmi les chrétiens et en particulier chez les protestants de façon spectaculairement efficace. Et puis nous verrons dans un second temps comment on peut comprendre ce texte métaphoriquement sur ce que Dieu attend de nous, en essayant de trouver quelques clés de compréhension supplémentaires dans les personnages présents et absents, et dans le contexte de l'époque, bien sûr. Alors avant tout, oui, cette parabole est bien une célébration du travail rentable, une véritable leçon de capitalisme. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Je te confie une grosse somme d'argent, en fonction de tes capacités, sans te donner la moindre consigne. Prouve-moi ton talent, sans mauvais jeu de mots. Et quand on pense que Jésus s'adresse à ses disciples, il ne fait vraiment pas dans la dentelle. Les disciples, ce sont des gens simples et pauvres, des pêcheurs, des paysans. Il leur parle de 5 talents, ce qui, selon les historiens, représente une énorme somme d'argent, quelque chose qui correspondrait à 1 million d'euros aujourd'hui. Donc une très très grosse somme, un gros enjeu. Et le texte reste elliptique sur bien des points. Aucune consigne. On ne sait pas si la somme d'argent est confiée, prêtée, donnée. On ne sait pas non plus ce que les serviteurs en ont réellement fait. Est-ce qu'ils sont allés jouer aux courses ou aux jeux ? Est-ce qu'ils ont investi dans la construction, dans l'agriculture, dans le commerce ? Aucun détail. Aucun détail. Ce qu'on sait, c'est que la spéculation financière en tant que telle n'existait pas à l'époque, bien entendu. Ce que l'on sait, c'est que les deux premiers ont fait travailler cet argent et doubler leur mise. Et que le dernier n'a rien fait du tout, se contentant de cacher son argent, probablement par peur du risque, et puis aussi par incompréhension de la mission que lui a donnée le maître. Ce qui est vraiment sidérant, c'est que les deux premiers serviteurs de cette parabole sont vraiment à l'origine d'une évolution de la conception du travail humain depuis l'époque de la Bible, et particulièrement à partir de la Réforme. En effet, dans les civilisations antiques, de façon générale, on n'avait jamais beaucoup de considération pour le travail, le confiant plutôt aux esclaves. Cette conception a évolué dans la tradition judéo-chrétienne, qui considérait le travail comme une des formes du service de Dieu et du prochain, lui conférant une sorte de dignité. Mais pour autant, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le travail a souvent été considéré comme une besogne temporelle, un peu négligeable, qui n'a pas la dignité spirituelle des exercices de piété ou que de la vie monastique, bien entendu. Avant la Réforme, donc, Le travail relevait la plupart du temps des contingences matérielles, auxquelles il fallait bien que certains hommes répondent, mais il était rarement considéré comme étant lui-même l'objet d'une vocation, dont Dieu serait à la fois l'inspirateur et le bénéficiaire. Tout ça change avec Luther, et c'est très important. Car lui, au tout début du XVIe siècle, il pose la toute première pierre de l'éthique protestante du travail, à travers son concept de vocation. Et je pense que les deux premiers serviteurs de ce texte l'y ont vraiment aidé. Alors que la dignité spirituelle et religieuse était jusqu'alors reconnue à la vocation des prêtres et des moines, Luther l'étend à l'exercice des professions, qu'elles soient manuelles, techniques, commerciales. Au contraire, la vie monastique à ses yeux soustrait l'homme aux devoirs de ce monde, alors que l'accomplissement des devoirs professionnels dans le monde devient l'expression la plus directe de l'amour du prochain commandé par l'Évangile. C'est donc un vrai retournement de conception. La vie professionnelle, dès lors, acquiert donc la même dignité qu'un ministère ecclésial et par la même occasion permet de prendre une véritable indépendance vis-à-vis du clergé, de se démarquer pour se déployer dans une sphère qui lui est propre. Plus largement, c'est de cette idée que découle une conception très active du sacerdoce universel des protestants et à leur valorisation de l'action pratique au milieu des hommes, à l'inverse des catholiques de l'époque, qui s'épanouissent plus dans la prière et la contemplation, à l'écart des activités humaines. Alors, à la suite de Luther, et donc des deux premiers serviteurs de cette histoire, Calvin a renforcé énormément encore cette théorisation des implications sociales et politiques de l'Évangile, en considérant qu'à travers son travail, l'homme est fait lieutenant de Dieu, c'est-à-dire qu'il tient lieu de Dieu, selon son expression. Il tient lieu de Dieu en s'exerçant à faire alors la volonté divine, c'est-à-dire à aider leurs prochains à vivre. Il est placé dans la position du gérant ou de l'intendant, appelé à mettre en œuvre et en valeur toutes les richesses de la création. On est tout près de notre parabole, d'autant plus lorsque Calvin apporte sa caution morale au prêt à intérêt, qui était jusqu'à présent, bien sûr, proscrit dans la Bible. Mais il est vrai qu'il distingue deux sortes de prêts, le prêt charité ou solidarité, qui ne doit pas faire l'objet d'intérêt, comme on l'a vu dans le texte du Deutéronome, du prêt de production, qu'on voit apparaître à ce moment-là, nécessaire à la mise en œuvre d'une entreprise rémunératrice, et qui, lui, est plutôt conseillé par Calvin. Alors, quid du troisième serviteur, au mieux inactif, au pire paresseux, qui est blâmé, sanctionné, et même banni par son maître qui le chasse? L'attitude de ce serviteur est peut-être l'origine de la condamnation par Calvin de l'oisiveté, qu'il a toujours considéré comme étant un vice particulièrement répréhensible. Le refus du travail, ou la paresse, est interprété comme le refus de répondre aux attentes de Dieu, comme une forme de rupture avec lui. En fait, on assiste, à partir du début du XVIe siècle, à une ouverture spectaculaire des protestants au monde du travail, comme répondant à un besoin dicté par Dieu. Il y a bien sûr beaucoup d'autres éléments et d'arguments pour expliquer l'esprit entrepreneurial attribué aux protestants à cette époque, mais cela a sûrement compté. Et lorsque Calvin exhorte ses coreligionnaires à devenir responsables d'eux-mêmes, je le cite, « Toutes choses nous sont tellement données par la bonté de Dieu et destinées à notre utilité qu'elles sont comme un dépôt dont il nous faudra une fois rendre compte. » En faisant ça, il déclenche en réalité un mouvement dont il n'a certainement pas imaginé l'ampleur des connaissances historiques, des conséquences historiques, pardon, un mouvement qui va sur plusieurs siècles ébranler la plupart des structures hiérarchiques du Moyen-Âge et inspirer leur remplacement par des structures de type démocratique, que ce soit dans la sphère de la société civile ou celle de la société religieuse. Alors passons maintenant à l'autre interprétation possible de cette parabole, celle qui consiste à imaginer ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples, bien avant le développement du capitalisme industriel 18 siècles plus tard. En fait, il me semble que ce texte constitue pour Jésus l'héritage ultime qu'il laisse à ses disciples, une sorte de dernière leçon d'une portée exceptionnelle, dont les personnages principaux, nous allons le voir, sont l'absence et la confiance. Pourquoi l'absence ? Bien d'abord parce que ce texte s'inscrit dans la série des paraboles sur l'absence du maître, comme celle des vignerons ou des dix vierges, il y en a plusieurs dans la Bible. L'absence, c'est ce qui préfigure cet entretemps qu'annonce régulièrement Jésus à ses disciples. Un espace entre le temps présent, où Jésus est bien là, physiquement, où il peut enseigner, aider, expliquer, et son retour attendu. Et cette précision de cet entretemps est d'autant plus importante que ce texte est le dernier de l'évangile de Matthieu, juste avant la semaine de la Passion. Le lendemain, Jésus va rentrer dans Jérusalem et entamer la semaine de Pâques. On peut donc imaginer qu'à ce point de son histoire, Jésus qui pressent sa fin toute proche, on sait que c'est une histoire de quelques jours et il disparaîtra, et disparaîtront avec lui son enseignement, sa vie avec ses disciples tels qu'ils l'ont connu. Pour lui, il y a donc urgence à les prévenir, à tester leur capacité à se débrouiller tout seul, et surtout à continuer ce qu'il a commencé, en gros, à préparer son absence. Rappelons-nous, les disciples ont été choisis par Jésus l'un après l'autre, probablement quelques mois avant. On ne sait pas très bien combien de temps dure leur aventure commune. On suppose que toute cette période a duré 1 à 2 ans. C'est très court, cette période, au regard de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, on peut dire que c'est réellement la seule période de « formation », entre guillemets, dispensée par Dieu via son représentant sur Terre. Une vraie formation, car au contraire des prophètes qui l'ont précédé, Jésus a choisi de ne pas travailler tout seul, mais il a souhaité au contraire s'entourer et enseigner. Et c'est cet enseignement aux disciples qui forme l'essentiel des évangiles. On peut supposer qu'il a soigneusement sélectionné chacun des membres de son équipe rapprochée dans le but de leur transmettre un savoir, une méthode qu'ils pourront à leur tour mettre en œuvre individuellement et collectivement de façon complémentaire. Donc nos disciples suivent une formation directement applicable pour leur boulot futur. Car pendant cette période de formation, ils sont observateurs plutôt qu'acteurs. On peut dire que le style d'enseignement de Jésus n'est pas très interactif. Un peu d'enseignement magistral via les paraboles, un peu d'enseignement pratique, les guérisons, les conférences publiques, les discours. On appellerait ça aujourd'hui un peu expérientiel, en prenant soin de se placer sur des sites et des environnements différents pour multiplier les situations. En réalité, et malgré la qualité de cet enseignement, on ne peut pas vraiment parler d'apprentissage, car à aucun moment les disciples ne prennent la place de leur maître, comme le feraient des apprentis qui répètent inlassablement un geste précis, ou bien même des étudiants qui révisent et qui passent des oraux. Et on peut imaginer que Jésus, à ce moment précis, soit pris effectivement par l'urgence de leur passer le relais. Et parce qu'il a passé 1 an ou 2 avec eux, il a probablement conscience que tous ne poursuivront pas son action avec la même ardeur. Il sait qu'il a besoin de les encourager, même s'il est peut-être déçu par certains dont il espérait plus. D'où cette dernière leçon, beaucoup plus directe que les précédentes, presque choquante. Cette fois, mes amis, c'est votre tour. Il est temps de relever vos manches, chacun avec vos talents. La semaine prochaine, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Il me semble que cette conscience de l'absence en dit long sur ce que Dieu attend de nous, attend des hommes pour poursuivre son œuvre, et sur sa propre incapacité à faire sans eux pendant son absence. L'homme doit continuer l'œuvre de Dieu sur terre. Dieu ne peut rien sans l'homme. On rejoint cette parole de Charles Wagner, « L'homme est l'espérance de Dieu ». La semaine suivante, effectivement, après sa disparition, certains parmi les 12 vont craquer et abandonner Jésus, complètement, retourner à leurs occupations. D'autres vont hésiter. D'autres encore vont prendre leur bâton de pèlerin et partir enseigner à leur tour, prêcher le message de Jésus. À l'image des serviteurs de la parabole. à l'image de nous tous, lorsque l'absence de Dieu se fait trop pesante dans nos vies. La deuxième composante essentielle de ce texte, c'est bien la confiance. D'abord, cette confiance immense, démesurée, que le maître fait à ses serviteurs. Il annonce son départ, il leur confie un trésor et ne leur donne aucune consigne pour l'utiliser, ni aucune échéance pour lui rendre ou pour lui rendre des comptes. Délégation totale. Pour autant, il ne donne pas à tous la même somme, mais à chacun selon sa capacité. Volonté d'inéquité ou subtile forme de bienveillance et de compréhension, car le Père sait que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Certains sont capables de prendre plus de responsabilités, d'autres devront au contraire combattre leur aversion au risque. En tout état de cause, tous devront faire des efforts selon leurs moyens. Mais l'important, c'est qu'il donne à tous, qu'aucun n'est oublié, et qu'il leur fait une confiance aveugle. D'ailleurs, cette confiance n'est en aucun cas une obligation de résultat, mais plutôt une obligation de moyens. L'important, c'est d'agir, peu importe si le gain est de 10 ou de 5 talents, la réaction du maître est exactement la même. La confiance, c'est également celle que les serviteurs ont en leur maître, car pour fonctionner, cette confiance doit être réciproque. Les deux premiers en donnent une preuve immédiate. Ils utilisent l'argent, le placent, le font fructifier, comme si c'était leur propre trésor, sans se soucier d'une perte éventuelle, d'une erreur. Ils n'ont pas peur. Ils font tout leur possible. Ils agissent, ils entreprennent pour obtenir les meilleurs résultats. S'ils n'avaient pas confiance en leur maître, ils garderaient un peu pour eux. Ils cacheraient leurs gains. Ils seraient plus prudents. Mais non, ils ne cachent rien. Ils risquent tout et ils gagnent tout. Le troisième serviteur, en revanche, lui, ne fait pas confiance à son maître. On voit bien qu'il a peur du maître. « Je savais que tu es un homme dur, qu'il ne comprend pas du tout comment il travaille. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu amasses où tu n'as pas vanné. » En somme, comme les deux autres, il a observé le maître qui lui enseignait. Mais il n'a pas compris sa façon de faire. Encore moins ce qu'on attend de lui. La confiance du maître n'a pas rencontré la confiance du serviteur en retour. Il s'abstient donc, se cache et ne prend pas part à l'entreprise. Et c'est cela justement, ce refus de participer, cette peur qui le paralyse, cet oubli pur et simple de la mission qui est impardonnable pour son maître. Enfin, la confiance supplémentaire au premier serviteur, celui qui a gagné le plus et à qui on confie encore le talent de celui qui n'a rien fait. Et d'un seul coup, ce qui peut apparaître comme une décision terriblement injuste, une sanction cruelle pour le dernier, et au contraire une prime supplémentaire pour le premier, devient en fait une exigence supplémentaire, une responsabilité donnée en plus à celui qui a été déjà capable de donner beaucoup. Et il me semble que c'est le passage le plus difficile de cette parabole, et celui qui aussi devrait nous faire le plus réfléchir. La confiance de Dieu nous est donnée, pour autant, elle se mérite chaque jour. Dieu nous pardonne de ne pas faire le plus, le mieux, ou de faire différemment, de faire à notre rythme. Mais il ne nous pardonne pas de ne rien faire de cette confiance offerte. À l'inverse, lorsque nous nous attelons à la tâche, qu'il voit que nous sommes capables de prendre cette responsabilité, il nous en donne encore plus pour nous pousser constamment à nous dépasser. Au fond, cette parabole brutale n'a d'autre fonction que de nous rappeler à l'ordre, chaque jour de nos vies. Il nous a été beaucoup donné, probablement faisant-nous partie de ceux à qui on a donné plutôt 5 talents. Nous comprenons la mission, on nous a beaucoup donné. Quels sont les talents que nous avons envie de faire fructifier par notre travail? Comment cela interfère dans notre relation avec Dieu? Et plus généralement, qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'action de Dieu dans nos vies, c'est cette équation confiance plus exigence égale responsabilité. Confiance donnée et confiance reçue, exigence pour soi et pour le monde, responsabilité à endosser sans relâche à chaque instant de nos vies. Dieu nous confie le monde, pour que nous le fassions prospérer et que cela profite à tous avec notre aide. Amen.